bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour l'émission Mot pour mot, une émission un petit peu spéciale puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Eiffel Radio a posé ses valises au Ciné Lumière en l'occasion des 10 ans de ce magnifique cinéma Armentières-Roy. Et pour fêter ensemble cette chance, nous serons sur place en direct régulièrement jusqu'au 17 juin inclus, c'est une date à noter. Mot pour mot va avoir une allure un petit peu différente forcément puisque le thème principal, vous l'aurez deviné, est bien évidemment le cinéma, mais plus précisément les adaptations de livres en film et inversement, vous le verrez. En tout cas, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis avec Louis.
Ouais, pour mon habitude.
Qui commence à être un compère assez régulier de mot pour mot. Je veux dire, pas te recruter comme animateur secondaire, ça ira plus vite.
Ouais, je pense que ça va finir comme ça bientôt.
Et bien évidemment, vous vous en doutez, vous le connaissez que très bien sur Eiffel Radio, vu que je suis aussi accompagnée de Pascal.
C'est vrai que c'est une forme de radeau, Eiffel Radio, mais on est heureux de naviguer aujourd'hui au sein du Ciné des Lumières. Ravi d'être avec toi, Océane.
Ravi également, et bien évidemment, aux manettes, vous retrouvez Quentin, comme d'habitude, qui n'a pas de micro, mais qui vous fait des coucous. Au programme d'aujourd'hui, on aura bien évidemment pas le... cette fois-ci, mais les livres de la semaine, puisque je vous ai concocté deux livres qui ont pour thème le cinéma. Donc, c'est des personnages qui vont vivre quelque chose autour de la cinématographie. Également, les adaptations, comme je vous le disais à l'instant, de livres en film et inversement, où Louis et Pascal vont venir pas mal m'épauler sur cette chronique pour parler un petit peu de toutes leurs recherches. Et on terminera avec les actualités du mois de juillet 2025, histoire de vous trouver quelques petites pépites pour passer l'été au soleil.
L'été approche, la température fait penser qu'on peut bientôt aller sur la plage, et un bon livre sur la plage, c'est sympa.
C'est toujours très agréable. Donc bien évidemment, comme je vous le disais, deux romans pour cette fois-ci. Donc le premier que j'ai à vous présenter est assez récent puisqu'il est sorti le 29 mai 2025 et s'appelle « Ce qu'il restera de nous ». C'est un livre de Lily Haim. Et donc « Que reste-t-il une fois les caméras éteintes ?» Comme je vous l'ai dit, ça parle cinéma. Sun Howell, acteur plusieurs fois oscarisé, partage son quotidien entre tournage, interview et shooting. Ses films sont très attendus, ses apparitions publiques largement commenté et la moindre de ses photos crée du buzz. On le voit partout, tout le temps, mais personne ne le connaît vraiment. Sun a toujours préservé sa vie privée et cache dans son passé ce qui est arrivé sur ce tournage des années plus tôt. Cassie Hart a grandi à Compton, entre foyer et condamnation. Il est habitué à la dureté de ce quotidien. Ses journées sont rythmées par les vols de voitures, un business familial qui l'a privé de son père. Et s'il lui arrive de se perdre dans une salle de cinéma, s'il aime filmer ce qui l'entoure, s'il est fasciné par le visage de Sun Howell, c'est pour s'oublier un temps, un autre vol, un autre scénario, un seul regard. Ils n'auraient jamais dû se croiser, jamais dû se connaître, mais leur rencontre ébranlera toutes leurs certitudes et éprouvera chacune de leurs limites. Des ombres de la rue aux lumières d'Hollywood, Sun et Cassie traverseront les années pour écrire leur histoire. Donc vous l'aurez deviné, il s'agit d'une romance LGBT pour le mois des fiertés. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de profiter. Justement, je suis tombée sur ce livre-là. Je me suis dit...
Très bonne idée.
Comment ne pas en parler en ce mois de juin. Il faut savoir une chose, c'est que c'est une romance à thème assez difficile. Je n'ai pas vu de spécification de dark romance, mais je pense qu'on est sur des passés assez compliqués. Donc, je pense qu'on est vraiment... entre la limite de la new romance et la dark romance, donc rien de très alarmant, mais disons que certains thèmes peuvent peut-être ébranler un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes du genre tous les deux à lire des livres qui ont pour thème le cinéma dans ce genre de choses, peut-être plutôt toi, Louis, je dirais.
Je sais. Comme ça, j'en vois pas. Je pense pas que j'en ai déjà lu. Ça pourrait éventuellement m'intéresser. Mais là, comme ça, je pense pas que j'en ai déjà lu par le passé.
Il faut savoir que je ne connaissais pas du tout non plus. J'ai même eu énormément de mal à faire mes recherches, je vais pas vous le cacher. C'était toujours des biographies, par exemple, ou l'histoire de certaines personnes à travers le cinéma, ou l'histoire d'acteurs, etc. Mais ou alors les histoires des univers. Mais c'est vrai que de la fiction... sur un roman classique qui a pour sujet le cinéma mais vécu par des gens de fiction, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver. Est-ce que c'est le genre de livre qui pourrait t'intéresser, Pascal ?
Non, mais non, pas vraiment. C'est pas le genre de littérature que j'ai tendance à lire. Moi, je suis plus polar, tu le sais.
Oui.
Mais je trouve intéressant dans le livre que tu nous présentes là, c'est le côté bad boy, good boy, avec un acteur qui a tout pour lui et puis quelqu'un qui vit un peu de rapine. Voilà, on sous-entend qu'il a une vie liée un peu à de la petite délinquance. Et la mise en miroir donc de la vie d'une star du cinéma avec et qui va quand même créer une rencontre et donc une histoire d'amour. Voilà, j'avoue que ce livre, j'aimerais bien le lire, mais pas avec le regard romance, mais plutôt sur la description des univers qui se croisent, univers surmédiatisé et univers un peu délinquant.
C'est vrai qu'on se retrouve avec des personnages qui sont très opposés et ça pourrait un peu voir de quelle manière les personnages peuvent se rencontrer et comment ils peuvent se retrouver alliés alors qu'ils viennent de deux environnements extrêmement différents. C'est vrai que dans un sens, quand on regarde un petit peu de plus près tout ce qui est animé, les films, etc., on a régulièrement ce petit cliché, si j'ose dire, entre la bonne personne et la mauvaise personne qui se retrouvent et qui tissent des liens. C'est vrai qu'on a souvent ce genre de mood-là, mais c'est vrai que sur le thème du cinéma, c'est quelque chose que je vois un peu moins, en tout cas pour là les derniers livres et en tout cas sur les recherches que j'ai faites. D'ailleurs, si on peut dire quelques mots sur l'autrice, c'est une autrice assez prolifique, puisqu'elle a écrit déjà 49 livres, ce que je vois Pascal faire une drôle de tête, mais en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup.
Il y a quand même des gens qui bossent de par le monde, hein. 49
et qui font ça à longueur d'année, qui en travaillent tous les jours et qui réussissent à nous sortir au moins un livre par an. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt impressionnant aussi. Mais je commence à avoir l'habitude hein, sur mot pour mot, sur le mag. On en voit tellement que maintenant, 50 livres, je me dis bon, ça va finalement, alors que je ne sais même pas si je serais capable d'en écrire 20. Donc après 10 ans qu'elle a passé à l'autre bout du monde, Lily Aim est de retour sur les livres de Lacanau, du côté de Bordeaux. C'est là qu'elle va laisser libre cours à ses passions, donc la musique, les biopics, l'histoire, la médecine, l'art, les histoires compliquées. C'est une personne qui aime marcher pieds nus et collectionner les rires de son fils. Donc on est vraiment sur une personne qui a des passions qui sont très diversifiées. Elle aime beaucoup profiter des gens qu'elle aime et construire son petit nid dans une maison en ruine. Et bien évidemment se perdre dans les mots comme énormément d'écrivains. Des mots qui soient beaux ou durs, anciens ou contemporains. C'est une magie qui plaît énormément à Lily, puisqu'elle a grandi au milieu des livres et l'écriture. C'est pour elle une inépuisable source de liberté. Les personnages qui prennent vie sous sa plume sont toujours touchants et honnêtement plutôt justes. Et globalement, elle écrit, vous l'aurez deviné, tout ce qui est de la romance hétéro et également de la romance LGBT. Donc si vous aimez sa plume, je pense que parmi les 49 livres, vous devriez trouver votre bonheur. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça a l'air d'être une autrice qui est vraiment de très grande qualité. Comme je vous l'ai dit en début de cette émission, j'ai un second livre à vous présenter, toujours sur le thème du cinéma. Donc ça s'appelle Twice in a Blue Moon. Donc désolée si mon accent n'est pas le meilleur, j'ai essayé de faire l'effort. C'est de Christina Loren et c'est un petit peu plus vieux, même si ça reste globalement assez récent, puisque c'est sorti le 7 avril 2022. Donc ça fait à peu près un petit peu plus de 3 ans. Malgré tout, c'est un livre qui a l'air d'être plutôt populaire. Donc, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Dans le cas de Tate et de sa grand-mère, l'imprévu prend l'apparence de deux charmants fermiers du Vermont, le grand-père Luther et son superbe petit-fils Sam. Entre Sam et Tate, c'est le coup de foudre. Pendant 2 glorieuses semaines, le couple se confie espoir, rêve et secret. Tate lui révèle qu'elle est la fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète, un secret qu'elle n'a jamais confié à personne auparavant. Mais lorsque Tate se trouve soudain exposée à une tourmente de caméras et de reporters. Elle apprend qu'elle a été trahie par la seule personne en qui elle pensait pouvoir faire confiance. Quand Sam refait surface, plus de 10 ans plus tard, Tate pourra-t-elle lui pardonner et raviver la flamme qui les animait durant leur escapade magique à l'étranger? Le souhaite-t-elle vraiment? Donc là, on est sur l'inverse. Quasiment, je dirais même, c'est le personnage n'est pas confronté au cinéma tout de suite, puisque ce n'est pas sa profession, mais c'est une profession d'un parent qui va lui amener malheureusement une célébrité que, de ce qu'on comprend,
elle ne souhaite pas. Elle ne souhaite pas. Ouais.
Et justement, on peut voir un petit peu peut-être le côté négatif justement de la célébrité, le côté très intrusif. Et je pense justement que ça peut être un... Les deux romans se complètent plutôt bien, je trouve. Parce qu'on a vraiment d'un côté le cœur du problème avec deux grosses extrêmes. Et de l'autre côté, on a vraiment une personne qui se sent trahie parce qu'elle a confié un secret et qui lui a amené une certaine célébrité qu'elle ne voulait pas. Et ouais, je pense que ça peut être deux livres qui se complètent plutôt bien. En tout cas, c'est des livres qui globalement parlent de cinéma, mais sont plutôt bien écrits. Est-ce que vous connaissiez l'un des deux ou quelque chose comme ça?
Un des deux livres?
Oui.
Alors, non. Par contre, Christina Loren, je connais. J'ai plein de livres chez moi. Je l'ai découvert.
Ah, j'ai cru que tu allais nous dire que tu avais son 06.
Non. J'ai plein de livres chez moi parce que ma mère en a acheté beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu le nom, quand on a préparé l'émission, je me suis dit, ça me dit un truc. Je suis allé voir. J'ai effectivement plein de livres. Celui-là, je ne crois pas que je l'ai, par contre.
Pourtant, il est assez, assez vieux, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples, peut-être, histoire de potentiellement raviver les souvenirs d'autres personnes, si jamais tu as...
Des livres de Christina...
Oui. Ouais.
J'ai Wild Seasons, j'ai Beautiful Bastard, et j'en avais un autre que j'ai plus en tête, là, comme ça. Par contre, j'ai déjà vu en librairie, et je me suis déjà posé la question de l'acheter ou quoi, Love and Other Worlds. Et bon, je ne l'ai pas acheté. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour.
Donc, si j'ai bien compris, c'est encore une autrice qui est assez prolifique.
Oui, oui.
Vu la collection qu'il y a dans la bibliothèque de la maman de Louis, plus ceux qu'il a croisés dans les librairies. Non, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce livre, c'est effectivement aussi, tu as moins insisté là-dessus, Océane, c'est la confiance quand tu es trahi par quelqu'un qui t'est... En lequel tu as absolument confiance. On sait que c'est une blessure plus profonde que les autres, parce que des trahisons, on en vit tous et on en commet sûrement. Mais quand c'est la personne dans laquelle on a le plus confiance, ce sont des blessures difficiles à refermer. Et je trouve que la projection de ça sur une personne connue qui essaie de se protéger de la notoriété et qui d'un seul coup est probablement on pressent dans le livre qu'elle va être projetée dans l'univers des médias et des commentaires sur les réseaux sociaux, enfin on peut imaginer ça, et effectivement la trahison doit être très très forte, et cette réflexion sur la trahison et derrière le pardon, parce que finalement comme il va se tisser une intrigue amoureuse entre eux, eh bien comment on pardonne à quelqu'un qui vous a trahi mais qu'au fond on aime beaucoup quand même.
Bah c'est ça, puis surtout que c'est quand même un assez lourd secret, c'est pas comme si c'était un secret de pacotille, c'est le genre de choses qui une fois révélées changent complètement la vie de la personne, puisque justement elle n'est plus cachée de ses caméras et de cette notoriété. Donc c'est vrai que c'est un secret qui a beaucoup de conséquences s'il est dit, et je pense que justement ça peut être très moralisateur comme livre et ça peut être très intéressant. Je pense que celui-là t'as un peu plus attiré quand même par rapport à l'autre.
Oui, parce qu'il y a une forme aussi d'inconnu qui n'est pas donnée dans la quatrième de couverture, c'est-à-dire est-ce que finalement elle va le pardonner ou pas, et est-ce qu'on peut bâtir un amour sur ces bases-là. C'est une vraie question, parce que quelque part cette trahison elle restera même si leur amour grandit. Voilà, est-ce qu'au fond ça restera toujours une petite frontière entre eux deux? Bon, ça c'est des questions que j'aime bien.
C'est des questions qui sont intéressantes à se poser et qui permettent un petit peu d'introspection aussi.
Et puis ça nous parle tous, quelque part. On a tous vécu des situations qui se rapprochent ou dans lesquelles on peut imaginer les trans et les réflexions des héros.
Ça pourrait peut-être même nous permettre de relativiser sur certaines choses, je pense. Hein.
Effectivement.
Sinon, quelques mots sur les autrices, parce que oui... Elles sont deux. Je ne sais pas si, Louis, tu étais au courant, du coup, vu que tu sembles pas mal les connaître. Mais Christina et Lorraine sont en fait Christina et Lorraine. Elles ont toujours été fascinées par les romans d'amour et elles vivent chacune à l'extrémité d'un même état, le Nevada. Donc elles sont co-auteurs et amies qui communiquent plusieurs fois par jour pour parler de choses essentielles. Bien évidemment, le vernis à ongles sera rouge, pailleté ou ne le sera pas. Et rêvent de passer le reste de leur vie en Californie, du côté de Saint-Clément.
C'est pas drôle tous les jours la Californie en ce moment.
Ouais, c'est vrai que bon, et puis vu la chaleur qu'on a ici, j'imagine même pas chez eux comment ça doit être étouffant aussi. Elles sont inspirées par Twilight, ce qui m'a un peu étonnée parce que c'est vrai que j'ai pas vu de traces de Twilight dans ce livre-là, donc peut-être d'autres. Je me suis pas particulièrement renseignée sur les livres. Louis n'a pas l'air d'avoir reconnu ce genre de choses non plus. Mais en tout cas, c'est un fait. Elles sont peut-être plus penchées sur le côté romance plutôt que le côté bitlit de Twilight. Elles ont commencé à écrire des fanfictions aux alentours de 2009 sous les pseudonymes TBY789. Donc elles ont fait
C'est un nom d'espionne, ça.
C'est vrai que même à prononcer, tu te demandes si tu dois le dire les lettres une par une ou si tu dois les lier. Elles ont fait vraiment, vraiment pas mal de choses par rapport à tout ça. Elles ont aussi entamé une collaboration avec A Little Crazy. Elles ont retravaillé ensemble leur fanfiction The Office, qui est devenue célèbre sur Internet, pour donner le jour au roman Beautiful Bastard, justement le fameux roman
qui est dans la bibliothèque de la maman de Louis.
Et effectivement, Pascal, tu m'en parlais, mais elles sont assez prolifiques. Pour le coup, elles ont un petit peu moins de livres que l'autrice précédente.
Mais de toute façon, dans la romance, si t'as pas écrit 40 livres, t'existes pas, quoi.
Ah, il y en a quand même qui arrivent à se faire des...
Il faut un premier, je suis d'accord avec toi. Mais pour être un auteur ou une autrice reconnue dans ce genre de littérature, je pense qu'il faut avoir écrit quelques livres, nombreux livres.
En fait, tu vois, c'est un peu comme une de nos invitées nous expliquait hier. Il y en a tellement. Il y en a tellement, en fait, qu'il faut réussir à se faire sa place, il faut réussir à avoir sa patte, à ne pas trop copier les autres, à être assez nouveau, mais en même temps à être moderne et avec quelque chose qui fonctionne. Le monde de l'écriture, c'est devenu assez compliqué parce que justement, il y a tellement de gens qui veulent être écrivains et qui essayent de faire de leur mieux qu'on se retrouve avec des concurrences qui sont astronomiques et des gens qui ont vraiment un énorme talent. Mais en l'occurrence, elles ont écrit 36 livres, ce qui est un petit peu moins que celle d'avant, mais ce qui est quand même pas mal, très sincèrement. Après, elles écrivent depuis 2009-2025. Ça fait quand même plus d'un livre par an. C'est vrai que c'est quand même assez fort, mais disons que elles ont une excuse, entre guillemets, c'est qu'elles sont deux. Donc forcément, peut-être
Alors,
que le
ça,
fait
ça, c'est une
de...
particularité aussi, le livre à quatre mains. Ouais. On connaît, c'est peu fréquent. C'est peu fréquent.
C'est vrai que souvent, ce sont des recueils de nouvelles ou ce genre de choses. On a rarement des romans qui sont vraiment en co-auteur comme ça.
Ça serait amusant de pouvoir leur poser la question, comment ils se répartissent la gestion des personnages. Est-ce que, par exemple, là, quelqu'un a pris le personnage de la personne qui va vivre cet excès de notoriété et puis l'autre a créé l'autre personnage ou pas, je ne sais pas.
Bah justement, ça permettrait vraiment d'avoir des dialogues qui sont un peu plus réalistes quand même, vu qu'ils viennent de deux cerveaux différents. C'est vrai que ce serait intéressant si une personne possédait un personnage et le co-auteur possédait l'autre personnage.
Ça peut fonctionner.
Bah, quelque part, on peut se dire, comme elles sont deux, ça va plus vite à écrire, tu peux sortir plus de livres, mais en même temps, il faut réussir à se coordonner, etc. En fait, tu peux perdre énormément de temps et au final, c'est peut-être pas plus rapide à faire.
Il faut être d'accord même sur les détails et je pense que c'est la chose la plus pénible.
Je pense que ça doit être très très long de le faire à deux, peut-être même au début, en tout cas, peut-être plus long que quand tu es seul parce que justement, tu dois être d'accord avec l'autre, tous les détails doivent être chapeautés.
Il faut trier les idées aussi.
Et même dans la manière de rédiger, il faut une cohérence dans le style d'écriture. Non, pour moi, ça doit être beaucoup de travail.
Après, je pense qu'au bout de 36 livres, ils ont trouvé une méthode de travail qui fait qu'ils vont plus vite quand même.
Elles sont ensemble sur les livres depuis 2009. Donc, c'est vrai qu'en autant de temps, en bientôt 20 ans de co-écriture, je pense que maintenant, c'est devenu même classique pour elles et que c'est devenu beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai que je pense que sur le coup, ce serait... Ce serait peut-être assez compliqué quand même, parce que si l'une a des idées plus diverses que l'autre, par exemple, ou
surtout qu'elles habitent pas à proximité ou ensemble.
En plus, c'est vrai que rien que le fait qu'elles habitent d'un côté et de l'autre du Nevada, ça ne doit pas beaucoup les aider non plus, je pense.
Elles doivent utiliser un outil de type Google Drive, comme AFL Radio.
C'est vrai que ça devrait être plutôt utile. En tout cas, voilà, c'était les deux livres pour cette semaine. Et on va bientôt passer aux adaptations littéraires et cinématographiques avec Louis. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Mathis, notre programmateur musical, a décidé de mettre l'ambiance de mot pour mot sur un style plutôt jazz. Et du coup, je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Thank you. Vous êtes toujours avec nous sur Mot pour Mot et on parlait à l'instant des deux livres que je vous ai présentés cette semaine et on va rester dans le mood du cinéma. Comme on vous l'a dit, si vous venez d'arriver sur notre direct, on est installé au Ciné Lumière pour les 10 ans du Ciné Lumière jusqu'au 17 inclus. Et la prochaine chose que j'aimerais vous présenter sur Mot pour Mot, c'est les livres qui ont donné des films et inversement, vous le verrez.
Oui, effectivement. Et on a beaucoup d'exemples de livres qui ont donné des films. Moi, je pense... Quand je pense à livres qui ont donné des films, je pense direct à Stephen King avec ça, La Ligne Verte.
C'est vrai que c'est les plus
Shining.
Connus.
C'est vraiment des films emblématiques, on va dire. Enfin, livres adaptés en films emblématiques. Après, on a J.K. Rowling aussi avec Harry Potter et Les Animaux Fantastiques, forcément.
C'est vrai que je pense que les gens penseront à J.K. Rowling avant Stephen King, je pense.
Après, on peut aussi parler de Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, forcément, film super connu. Je pense qu'on sait un peu moins pour eux que ça vient de livres à la base, mais effectivement, ça vient de livres. Évidemment, avec des livres qui sortent encore maintenant et des films du coup, qui vont être adaptés des livres, il y a les Hunger Games, forcément, de Suzanne Collins. Donc là, encore récemment, là en 2025, il y a un livre qui est sorti, un film qui est en cours sur le livre en question. Et aussi, on peut parler de trucs moins connus comme Le Labyrinthe, même si ça, c'est connu. On peut parler de Nos Étoiles Contraires aussi.
C'est vrai que c'est un peu de style. C'est des choses qui sont plutôt connues, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'à la base des bases, c'est un livre et ouais. Que le film est sorti seulement après.
Ouais, et moi, je voulais aussi parler de films qu'on voit moins en tant que livre parce que c'est de l'animation, tout simplement. On met tout simplement les trucs Shrek, les Disney. Avec Robin des Bois, Cendrillon, Blanche-Neige, tout ça, pareil, à la base, c'est des livres qui ont été adaptés en animation, films d'animation.
C'est vrai que j'aurais cru que les films étaient sortis avant les livres pour tout ce qui est Disney.
Pour certains, oui. Je ne sais plus lesquels. Pour certains, oui. Mais tout ce qui est Cendrillon, par exemple, Blanche-Neige, les trucs comme ça.
C'est sorti en livre en premier.
Et il y a très longtemps.
Oui, on avait vu quand on avait parlé un petit peu des contes interdits sur une des émissions de la radio, justement, où on avait vu que les contes de base avaient été créés il y a très très longtemps et n'avaient plus du tout la même tête par rapport à aujourd'hui. Mais par contre, en l'occurrence, Shrek, je ne savais pas du tout qu'il était tourné en livre avant.
Je ne le savais pas non plus. J'ai découvert en préparant l'émission et je me suis dit, faut que j'en parle.
Je ne savais même pas que Shrek était dans le livre, déjà de base.
Quand j'ai vu la couverture du livre, je me suis dit, ouais, c'est très ancien, ça se voit.
L'histoire ne doit pas être la même, à mon avis, non plus, je pense.
Je pense que c'est un peu adapté, comme souvent dans les adaptations de livres vers les films. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément montrer, des choses qui sont compliquées à tourner. Donc il y a tout ce côté-là de faire une adaptation de livre vers film. Bah, tu ne peux pas prendre juste le livre et dire je le transcris en image ou en parole. Tu es obligé d'adapter forcément pour que ce soit cohérent dans un film, pour qu'à l'image ça rentre bien aussi, parce que des fois tu ne peux pas juste pas voir les choses. Donc forcément, dans l'adaptation, faut adapter l'écriture au film.
Pour une raison très simple aussi, c'est que entre le livre et le film, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle un scénario, c'est-à-dire où on va mettre en mots, mettre en couleur le livre, qui parfois peut faire. Alors je me demande comment ils feront avec les livres de romance maintenant qui font 5 tomes de 500 pages. Il faut réduire ça pour avoir un scénario qui tienne sur 1h40, 1h50 de film. Donc il y a un vrai travail de très fin pour aller chercher les scènes les plus, les descriptions, les écritures les plus performantes, les plus signifiantes, pour que ça résonne par rapport à ce que veut dire le réalisateur. Ça, on n'en parle pas souvent. Et on me disait, pour ne pas le trahir, c'est Louane qui me disait hier, donc le responsable du cinéma, il me disait, maintenant, on ne prend plus dans une équipe de film un scénariste, on achète des scénarios qui ont été écrits et vendus comme tels. Et du coup, les scénaristes ne sont plus valorisés. Ils travaillent pour Peanuts et en fait on achète leurs scénarios et ça veut dire qu'on a déjà des intrigues ou des histoires qui sont déjà réduites à l'état de scénario et donc peut-être qu'on s'inspire de plus en plus des livres pour faire ça en fait parce que le travail littéraire il a été fait avant
quelque part, là je viens de me faire une réflexion, c'est effectivement les livres qui ont été adaptés en film. Les films sortent assez récemment, même si c'est des livres qui viennent d'il y a très longtemps. Les films sortent plutôt récemment, dans les années 2000 et
plus. Il y a eu une accélération ces dernières années. Ouais. Ouais.
On en voyait moins avant. Et c'est du coup, forcément, adapter un truc qui date d'il y a très longtemps à maintenant, il faut aussi adapter des fois, et c'est le choix de certains réalisateurs, d'adapter à l'époque aussi, adapter aussi des détails que...
Des problèmes de décor. Hein.
Ouais, des problèmes de décor.
Refaire un quartier 1930 actuellement, à part dans des studios adaptés, il n'y en a plus beaucoup. C'est compliqué.
Ouais, puis même avec le temps, on trouve des incohérences, des fois dans certains livres ou autres, que du coup, les auteurs travaillent avec les réalisateurs pour essayer de corriger, pour adapter, pour rester fidèles au livre, mais en rendant l'histoire moins incohérente, par exemple à Limoges, peaufinant par exemple les décors parce que des fois on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc à l'image tu mets quoi, faut adapter aussi pour inventer des fois les décors qui ne sont pas forcément mis en place. Océane, je ne sais pas si tu avais d'autres...
Je me dis aussi que par rapport à cette histoire de décor, c'est vrai que des fois tout n'est pas expliqué dans le livre parce que l'avantage du livre quelque part c'est que ça laisse à réflexion. Et c'est pour ça que du coup, ouais, on se retrouve pas avec des pages et des pages et des pages de description. Donc c'est vrai que quand on veut le mettre en film, on entend beaucoup de gens dire « Ah oui, mais le livre est mieux que le film ». Mais parce que justement, il y a ce côté d'inconnu, en fait, qui fait que nous, on est libre de notre imagination et qu'on peut, on peut inventer plein de choses, en fait.
J'ai rarement entendu le contraire, d'ailleurs. Quelqu'un qui me dise « Ah, le film, c'est bien mieux que le roman ».
C'est très rare. On entend même pas souvent. Si j'en ai
moi, j'ai jamais entendu. Non, mais j'ai entendu moult fois des gens dire « Ah, oh, l'adaptation, elle ne respecte pas l'histoire » ou bien « Le réalisateur a mis ça à sa sauce ». Ça, on l'entend assez souvent.
Ouais. C'est très rare et on va certainement en reparler après quand on va parler des films qui ont donné à des livres parce que je vais expliquer certaines raisons de pourquoi on en voit moins. Mais du coup, Océane, tu avais envie de parler de livres qui étaient adaptés en film aussi.
Disons que je vais parler peut-être de choses déjà un peu plus récentes, parce que certains que tu as présentés sont quand même assez vieux. Mais on a Call Me By Your Name, qui a eu droit à son livre et à son film. On a The Kissing Booth, les trois tomes, À tous les garçons, À travers ma fenêtre, À contresens. Et un qui m'a particulièrement marqué, c'est Les corps cachés de Caroline Kepnes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous ne le devinerez pas, mais c'est les livres en fait, qui sont à l'origine de la série You. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a Les corps cachés, il y a Parfaite, et il y en a encore un troisième qui a un nom anglais, donc je ne saurais pas me souvenir du nom. Mais globalement, il me semble, si je ne m'abuse, le premier livre qui m'a fait renouer avec la littérature de façon globale. Parce qu'avant, je lisais deux chapitres d'un livre, je le posais, j'en prenais un autre. Je ne lisais pas pendant des années et des années. Et c'est le tout premier livre que j'ai réellement terminé de A à Z et dans lequel j'étais vraiment plongée. J'avais lu ça un été et je passais mes après-midi complètes devant ce livre-là. C'était un pur bonheur. J'adore La patte de Caroline Kepnes. Et en fait, je me suis aperçue d'un truc justement... comme ce dont je parlais tout à l'heure, il y a des divergences entre le livre et le film qui sont parfois pas dérangeantes et même parfois mieux, mais qui d'autres fois sont quand même assez spéciales, surtout quand il s'agit par exemple de la mort d'un personnage, où ce personnage est mort d'une certaine manière. Donc tout le long de la série, tu vas te dire ce personnage va mourir de cette manière, et finalement c'est pas le cas. Et ça laisse une légère frustration quand même de se dire mince, c'est pas ce que j'avais lu, c'est un passage que j'avais bien aimé, il est pas représenté dans le film, c'est un petit peu dommage. Et aussi...
Un peu le travers, c'est de penser que le film est la mise en image du livre. Mais oui. C'est pas seulement ça.
Non.
Il y a un réalisateur, il y a un scénariste au milieu quand même.
Puis rien que de la part des gens qui le lisent, il y a énormément d'imagination qui va derrière. Moi, je sais que les personnages, je ne les avais pas du tout imaginés physiquement comme ça. Et le fait, du coup, de voir les acteurs, en fait, ça, c'est pareil, c'est assez, ça chamboule pas mal. On a des personnages qui sont présents dans le livre, mais qui ne sont pas présents dans la série et qui n'ont l'air de n'avoir jamais existé. Donc, c'est vrai que ça a ses côtés positifs et ça a ses côtés négatifs, l'adaptation.
Parfois, ça casse le mythe, hein.
C'est ça, ça casse un peu le côté authentique, je dirais, du livre, des fois. Et il faut savoir une chose, on vous a parlé des livres qui ont donné des films, ce qui globalement est ce qui arrive à chaque fois, mais parfois, on a des films qui ont donné des livres, et on s'est rendu compte en faisant nos recherches que c'était beaucoup plus rare et que c'était plus compliqué d'en trouver, mais Louis a réussi à faire quelques recherches à droite à gauche pour nous expliquer pourquoi.
Et juste du coup, pour clarifier un truc, un livre adapté en film... ça s'appelle une adaptation, tout simplement. Mais un film qui est basé, qui va vers un livre basé sur son scénario, ça s'appelle une novélisation. Donc, juste comme ça, vous avez un peu le terme. Et du coup, il y a pas mal de films quand même qui ont donné des livres. Et je vais parler un peu des raisons de pourquoi on trouve plus de livres adaptés en film que de films adaptés en livre. Et la raison la plus évidente, c'est que des livres, il en sort des dizaines de milliers par an, des films...
Un petit peu moins.
Quelques milliers, tout au plus. Donc, forcément, on a plus de contenu à adapter en film que dans le sens inverse. Donc, évidemment, s'il y a plus de matière, on le fait plus facilement et on le fait plus. Autre point qui pourrait expliquer ce phénomène, c'est que la littérature est vue un peu plus comme pure. Donc, c'est aussi pour ça, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens préfèrent des fois plus les livres. C'est vu comme plus pur, comme plus... intellectuel ou autre, que le cinéma est vu comme plus populaire bien souvent, donc un peu dénigré quand on fait des adaptations. Et donc aussi la novélisation est souvent perçue comme des produits dérivés, en fait, tout simplement des films. Et donc les gens, ils n'aiment pas trop qu'on fasse un peu de buzz et de succès et de rentabilité en sortant des livres sur un film qui a déjà bien fonctionné. Donc les gens, ils apprécient pas spécialement, donc ça, on le fait moins, tout simplement.
Et puis il faut trouver l'écrivain qui a envie de caler
d'écrire
ses pas
dans
un film, parce que généralement les écrivains, et on le voit dans tous ceux que nous présente Océane, les écrivains ont leur style, ont leur patte, et là on leur demande de se mettre un petit peu au service du réalisateur du film.
Puis il faut se le dire aussi, c'est pas rare dans les films qu'il y ait beaucoup d'improvisation. Donc c'est vrai que se fier au scénario, au script, à toutes ces choses-là, parfois c'est pas l'exactitude du film, parce que on a parfois comédiens, des acteurs qui vont s'amuser à détourner un petit peu ce qu'ils sont censés dire pour avoir un peu leur patte à eux aussi et pour peut-être trouver des phrases qui sont plus adaptées. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça demande énormément plus de recherche entre ce qui a été écrit de base. Ce qui a été produit ensuite, il doit déjà y avoir des divergences à propos de ça. Donc c'est vrai que faire un livre, on ne sait pas trop si on doit cumuler les différences, si on doit choisir. C'est peut-être ça aussi qui pose des difficultés.
Et bah, sans savoir, tu touches un point intéressant, parce qu'en termes de novélisation, il y en a plusieurs types différents. Tu as celle qui se base sur le scénario de base, et il y a celle qui se base sur le scénario final, avec tous les... donc après le tournage, avec toutes les adaptations des comédiens qui ont improvisé, etc. Et donc... selon le film, tu as des novélisations qui sont un peu différentes. Tu ne sais pas si ça va se baser sur le scénario de base qui était là au début, avant les modifications durant le tournage, et les novélisations qui sont là après tournage, et qui, du coup, y a toutes les adaptations liées au tournage qui ont été faites. Et donc, pour quelques exemples de novélisations de films qui ont été adaptés en livre, on a par exemple The Avengers en 2012. Donc la novélisation est sortie aussi en 2012 comme un produit dérivé. On s'est dit, le film va sortir. On va sortir effectivement quelque chose qui ressemble à une merch.
Moi, je suis surpris parce que je pensais qu'il y avait des comics, donc des livres, mais sous forme de bande dessinée, qui traitaient déjà des Avengers.
Alors, oui, c'est...
Avant les films.
Avengers, je l'ai mis en premier parce que c'est aussi un cas particulier. C'est, dans ce sens-là, c'est... Il y a des comics, tout n'est pas fidèle. C'est un peu particulier comme film. C'est pour ça que je le mets en premier dans les novélisations. Mais en gros, ils ont sorti un livre en termes de roman adapté du film qui se base sur le scénario du film et non pas le film qui est fidèle totalement à la BD, par exemple. On a aussi Dirty Dancing, tout simplement. Le film est sorti en août 1987 et le livre en 1988.
C'est vrai que je suis moins
étonnée. Un film sur Dirty Dancing, parce que le film a eu un succès mais mondial. Hein.
Mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un livre, mais du coup, je ne suis pas étonnée que ce soit le film avant le livre pour celui-là. Parce que forcément, le premier qui a été connu, c'est celui-là. Donc c'est vrai que c'est un de ceux qui m'étonne le moins.
Ils ont essayé de surfer sur la vague de la réussite du film. Le livre n'a pas très bien réussi.
A priori, même Pascal n'était pas au courant, donc oui.
On en parlait en préparation de la journée, mais vendredi 13 aussi. C'est une novélisation.
Il y a ça, ce n'est pas une bonne idée de faire ça le vendredi 13.
Vendredi 13 qui sera un des sujets, d'ailleurs, du club Eiffel.
Ouais. Ouais, et du coup, le film est sorti en 1980 et le livre 7 ans plus tard, en 1987. Généralement, ça ne tarde pas à sortir après. On est aux alentours de un an, enfin quelques mois et un an après. Là, on a attendu 7 ans avant le livre.
Ils se sont dit qu'ils allaient laisser justement... surfer cette fameuse vague avant de revenir mettre un coup avec le livre.
Que toutes les catastrophes du vendredi soient passées, quoi.
C'est ça, pour être sûr.
C'est ça. Après, on a Interstellar.
Interstellar, un livre ?
Eh oui, je ne le savais pas.
Ouais, mais grande surprise pour moi aussi.
Je ne savais pas non plus.
Et en fait, il est sorti quasi en même temps que le film. Et voilà, c'est le film a pris toute la lumière. Et
c'est le produit dérivé par excellence. Là, ouais.
C'est exactement ça.
Mais en fait, c'est là que je me rends compte qu'on connaît moins, du coup, forcément, les novélisations. C'est vraiment le fait que, pour la plupart, le film est très connu, mais le livre ne l'est pas.
Moi, j'irais facilement voir un film qui traiterait d'un livre que j'ai lu et qui m'a plu.
Et l'inverse.
Mais je ne sais pas si j'achèterais un livre sur la base... Alors oui, peut-être un livre qui m'expliquerait comment le film a été préparé. Oui. Mais un livre qui serait la fiction même telle qu'elle est, elle est relatée dans le film, je ne suis pas certain.
Surtout que je sais que personnellement, lire un livre et ensuite aller voir le film, ça ne me pose pas de problème. Parce que je vais pouvoir comparer ce que j'ai imaginé et ce que je vais voir. Mais l'inverse, je sais que quand j'ai vu le film, je ne lirai jamais le livre. D'où le fait que malheureusement, j'ai dû vous passer assez rapidement tous les livres que moi je vous ai présentés. C'est parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai vus en film et que je sais que je ne lirai jamais parce que justement, tu sais, ton imagination, Pascal, elle est un peu biaisée. Quand tu fais dans cet ordre-là, t'es rattaché au film plus qu'à la possibilité d'imaginer, de voyager dans l'inconnu.
Tu lis par exemple la description d'un personnage dans le livre et en fait tu vois celui tel que le réalisateur te l'a présenté dans le film.
Ça casse un peu l'imagination, je trouve.
Et du coup, pour finir sur les novélisations, on a par exemple Avatar aussi qui est assez connu. Les deux films Avatar, en fait, ont donné à des livres aussi qui ont été quasi zappés. Ils ont sorti le livre pour le premier Avatar, donc en 2022, ils ont fait on va faire la même chose pour même si ça n'avait pas trop fonctionné, on va sortir aussi pour Avatar 2 le livre. Comme ça, on reste fidèle à ce qu'on a proposé de base. Et je vais vous parler d'un autre phénomène qui est la pré-novélisation. En fait, c'est un peu comme la novélisation, sauf que là, le livre, il sort quelques mois avant le film. Donc,
c'est-à-dire qu'il est fait en même temps.
Ils sont faits en même temps. Et en fait, ça va plus vite d'éditer le livre et de le sortir que de faire tout le montage des films, etc. Et de le sortir.
Alors qu'on sait que déjà, l'édition d'un livre, c'est déjà très long et très fastidieux.
Ouais, là, tu as tout le côté montage, tu as tout le côté accord avec les cinémas, avec les sorties, etc. Et du coup... Des fois, ils se disent, on va sortir le livre et avant.
C'est pour teaser le film.
Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un peu le cas de Star Wars, par exemple. Donc, le film était sorti en mai. Et le livre est sorti en. Alors.
Le livre est sorti en 76 et le film.
Ouais, le livre en novembre 76 et le film en mai 77. Et du coup aussi King Kong, qui est par ailleurs le premier film qui a été adapté en livre, donc c'était important d'en parler aussi, en 1933 et 1932 du coup. Et petit cas particulier avec Titanic, qui n'est pas basé sur le scénario, mais qui est aussi un film qui a été adapté en livre, même si à la base c'était une histoire vraie.
Et puis Titanic, il y a eu beaucoup de livres autour du Titanic, hein, plus ou moins romancés, plus ou moins autour de l'histoire, et notamment un qui effectivement se rapproche plus du film à succès qu'on a connu sur tous les écrans. Hein.
Ouais. Et donc là, juste pour conclure là-dessus, on a, après les années 2000, beaucoup moins de novélisations, etc., parce que bah, justement, ça ne se vend pas énormément. Ils ont préféré, en termes de merch, plus se baser sur des livres bonus, des livres compléments de l'histoire ou sur des artbooks. Et donc, petite question, est-ce que vous, si vous aviez un livre que vous voudriez adapter en film, vous en auriez un en tête ?
Je vais peut-être laisser Pascal commencer en premier.
Bah, moi, comme je suis amateur de polar, un film qui me ferait plaisir, c'est le dernier, la mise au cinéma du dernier film de Franck Thillier, À retardement.
Ah oui, j'ai pas encore eu l'occasion
d'abord
de le lire,
d'abord parce que je suis sensible au style de Franck Thillier. Deuxièmement, sur FL Radio, on le connaît bien, on l'apprécie beaucoup. Il est toujours disponible quand on le rencontre. Et en plus, dans son dernier film, il aborde une question qui est très présente dans les récents faits divers, encore cette semaine, c'est comment quelqu'un qui a commis un crime atroce, quelle responsabilité juridique il a et qui est qualifié pour le juger.
Donc, surtout quand viennent des soucis mentaux à côté,
voilà,
etc.
Donc, j'aimerais bien. Alors moi, mon idée, c'est de voir comment un réalisateur va s'emparer de ça et de quel côté ça va pencher. Est-ce qu'il va accentuer le côté... n'est pas responsable parce que problème psychiatrique, ou au contraire, responsable ou pas, il doit payer pour la société. Voilà, donc ça me ferait plaisir. Oui.
Et toi, Océane, du coup ?
Ben, j'en ai deux en tête, un plus facile que l'autre, je pense. Donc, le moins facile à tourner en film, à mes yeux, ce serait Lexstone, plus dans le sens où il est très, très ping-pong. Très ping-pong, très aléatoire, un peu trash aussi, même si en soi, on a vu des livres, enfin, on a vu des films qui sont bon, très complexes aussi, mais disons que ça a un certain attrait qui fait qu'on aurait pas mal de tranches d'âge différentes qui voudraient y aller, donc ça demanderait plein de Peggy, plein de surveillance, parce que bah, forcément, les gens vont essayer de dépasser les Peggy. Donc c'est vrai que bon, ça, c'est un film qui, déjà dans la production, risque d'être un peu casse-gueule, mais au moment de la diffusion, risque de l'être beaucoup aussi. Et
on dirait que ça te réjouit.
Que ce soit...
oui, que ce soit difficile à...
Oui, parce que
ce soit un exercice justement un peu piquant d'arriver à le faire.
Oui, parce qu'à mes yeux, reproduire du Sarah Rivens, c'est compliqué. Parce que c'est une écrivaine qui a sa propre patte, qui a vraiment sa façon d'écrire et qui est très connue pour sa façon d'écrire. Et justement, si elle ne fait pas partie du scénario en elle-même, si elle ne coproduit pas avec eux, pour moi, ce ne sera pas pareil. Mais un qui serait peut-être un peu plus accessible, je pense, parce qu'il est plus doux et on est plus côté new romance, c'est Love Charlie de Delinda Den, que j'avais déjà présenté sur la radio l'année dernière, et qui, lui, est une romance qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus calme, et qui permettrait vraiment d'être, je pense, plus linéaire et un peu plus simple à produire quand même. Même si on a quelques petites choses par-ci, par-là, d'effets spéciaux qui vont devoir être ajoutés par rapport à certaines thématiques. Mais je pense que globalement, ouais.
Et bah, moi personnellement, Océane, tu dois t'en douter, mais Inheritance Games, et pour moi c'est super adaptable en film. Le seul point compliqué qui pourrait arriver, c'est qu'il y a beaucoup d'énigmes et il faudrait rester fidèle aux énigmes, pas trop spoiler les énigmes avec notamment les parties de la maison ou quoi. C'est le seul côté où ça risque d'être compliqué en production, mais je pense qu'en rendu ça peut être super intéressant.
C'est vrai que ça risquerait d'être aussi un petit peu casse-gueule, mais donc là, c'était un petit peu pour vous expliquer les raisons de pourquoi l'un fonctionne plus que l'autre, etc. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter sur Mopomo, c'est bien évidemment l'actualité littéraire, une actualité qu'on voit un petit peu à chaque fois qu'on fait un mot pour mot. J'essaye de toujours vous caler un petit peu quelques petites sorties à droite, à gauche. Et cette fois-ci, ce sera pour juillet 2025. Donc, je vais pouvoir en passer que quelques-uns puisque le temps commence à presser un petit peu. Mais on a Swift River Valley, tome 1, Secret d'un été oublié. C'est un livre de Carla Negers et c'est un livre qui est déjà sorti mais qui sort en brochet le 1er juillet 2025. Donc, Olivia en est certaine. Elle a fait le bon choix en revenant s'installer à Knightsbridge. Ici, dans ce village où elle a grandi et où vivent tous ceux qu'elle aime, elle sera heureuse. Et puis, ce nouveau départ dans la vie n'est-il pas l'occasion pour elle de réaliser enfin son rêve et de restaurer la vieille ferme qu'elle a achetée pour en faire une maison d'hôtes, une ferme à laquelle elle se consacre entièrement et où elle investit jour après jour son énergie et son âme, mais aussi son cœur. Lorsqu'elle fait la connaissance de Dylan, le propriétaire de la maison jouxtant la sienne, un homme auprès duquel elle se prend très vite à rêver à un bonheur partagé, sauf que Dylan n'est en ville que pour quelques semaines et repartira ensuite à l'autre bout du pays, loin d'elle. On a également le livre Flower Heart, que je vous avais déjà présenté, mais qui va faire sa sortie en poche. Donc, globalement, c'est un livre de Catherine Bakewell. Et c'est un rapport entre la magie, la nature et une certaine malédiction, de la magie dangereuse et tout, que je vous invite à aller voir. C'est un livre qui m'attire beaucoup, personnellement. On a également « Ton monde et le mien », tome 1, de Abby Jiménez, qui voit sa sortie en poche le 9 juillet 2025. Donc après un pari fou, Alexis voit son monde bouleversé. La cause, Daniel Grant, un menuisier ridiculement sexy qui a 10 ans de moins qu'elle et qui prend la vie tranquillement comme elle vient. Il est tout le contraire de la citadine sophistiquée qu'est Alexis, et pourtant, leur alchimie est indéniable. Alors que ses riches parents souhaitent qu'elle perpétue l'héritage familial de chirurgiens réputés internationalement, Alexis commence à douter de ce qu'elle veut vraiment. Elle n'a pas besoin de gloire ou de célébrité, être simple médecin et urgentiste lui suffit amplement. Et chaque minute qu'elle passe avec Daniel, elle découvre ce qui est vraiment important. Pourtant, laisser leur relation devenir autre chose qu'une aventure à court terme signifierait qu'elle tournerait le dos à sa famille. Avec autant de différences entre eux, comment Alexis peut-elle choisir entre chacun des mondes qui s'offrent à elle ?
Alors moi, j'ai envie que tu me dises ce que c'est qu'être ridiculement sexy.
Eh ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut lire le livre parce que la plupart du temps, c'est peut-être ça.
Parce que être ridicule, ça, on le connaît tous. On a tous passé par là. Être sexy, c'est moins fréquent. Mais être ridiculement sexy, ça demande un certain art, je pense.
Ça doit avoir un lien un petit peu avec le fait que ce sont des attraits un peu banals qui le rendent comme ça. Et je pense que du coup, ce côté ridicule vient banaliser, entre guillemets, ce que le personnage trouve attirant sur cet autre personnage, alors qu'en vérité, ce n'est pas des points qui sont extraordinaires. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. On a également le livre « La maison des enfants » de Mario Escobar, qui va voir sa sortie cette fois-ci ni en poche, ni en brochet. C'est la sortie officielle du livre. Le 17 juillet 2025, donc Amsterdam, 1942, le drapeau nazi flotte déjà sur la Hollande et dans des lieux tels que le théâtre hollandais Schouwburg, des milliers de juifs attendent le jour de leur déportation. Le professeur Johann Wallhoust est le témoin des conditions dans lesquelles les enfants juifs, terrorisés et affamés, attendent leur sort. Il ne peut rester impassible face à une telle souffrance. Pour faire face à cette tragédie, il entre en contact avec Henriette Pimentel, la directrice de la garderie la plus proche, et Walter Suskind, je crois, le juif allemand que l'on a contraint à rédiger les listes de déportés. Ensemble, ils vont concevoir un entrelac de tunnels par lequel ils tenteront de sauver les enfants tout en se cachant d'un régime chaque jour plus impitoyable. Le prochain que j'aurai à vous proposer, c'est « Au secours, bébé à bord » de Christina Valentin. Donc ça sort le 26 juillet 2025. Paula Schmitz n'aime pas les enfants. Elle peut tout à fait se passer de ces petites créatures bruyantes et sales, mais certainement pas de sa carrière professionnelle. Elle vient de se séparer d'Olaf et de son perpétuel projet de fonder une famille. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Ce n'était absolument pas prévu, évidemment. Elle ne s'attendait pas à craquer en voyant ce petit haricot à l'échographie, ni à ce que toute sa vie soit chamboulée. Une salle d'accouchement avec des chants de baleines en fond sonore, une nouvelle carrière professionnelle dans une ferme écologique et un menuisier taciturne mais très séduisant nommé Simon. C'est une histoire qui est drôle, osée et rafraîchissante. Et c'est une romance qui est idéale pour les vacances. Donc, j'estimais que c'était assez intéressant de vous en parler. Et le tout dernier que j'aurais à vous proposer, c'est Une enquête de Sam Gordon, tome 1, L'art au cœur de la balle. Donc là, peut-être que Pascal, ça pourrait t'attirer un petit peu plus. C'est de Anne Siedel et ça voit sa sortie le 31 juillet 2025. Donc surprise, c'est un meurtre. Les fêtes surprises ne se déroulent jamais comme prévu et cette soirée de bienvenue ne fait pas exception. L'enquêtrice amateur globetrotteuse Sam Gordon entre dans sa ville natale d'Orange Grove pour s'occuper de sa tante blessée. Ce qui devait être un moment de retrouvailles et d'amusement avec sa famille et ses amis se transforme en mystère artistique lorsqu'un homme est retrouvé mort dans le studio d'art de sa tante. Va-t-elle se trouver dans une impasse ou réussira-t-elle à capturer le meurtrier avant qu'il ne soit trop tard ? Avec son héroïne pleine d'entrain, une énigme captivante et beaucoup d'humour, ce nouveau polar cosy addictif vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Et avant de conclure cette émission, on va passer un petit peu cette fin d'émission en musique. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, mais on arrive à la fin de cette émission. Pour rappel, mot pour mot, c'est diffusé le dimanche soir de 21h à 22h. Et si jamais vous n'êtes pas disponible, sachez que c'est à retrouver en podcast sur le site de notre radio. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On est un petit peu partout. Et la prochaine fois qu'on se retrouvera pour mot, ce sera de nouveau en studio. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Et je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Round Midnight.